Conspiration d'Irlande. La conjuration des Irlandais catholiques contre les protestants, sous Charlier, en 1641, est une fidèle imitation de la Saint-Barthélemy. Des historiens anglais contemporains, tels que le chancelier Clarendon et un chevalier Jean Temple, assurent qu'il y eut 150 000 hommes de massacrés. Le Parlement d'Angleterre, dans sa déclaration du 25 juillet 1643, en compte 80 000, mais M. Brooke, qui paraît très instruit, crie à l'injustice dans un petit livre que j'ai entre les mains. Il dit qu'on se plaint à tort, et il semble prouver assez bien qu'il n'y eut que 40 000 citoyens d'immolés à la religion, en y comprenant les femmes et les enfants. Conspiration dans les vallées du Piémont. Je mets ici en grand nombre de proscriptions particulières. Les petits désastres ne se comptent point dans les calamités générales, mais je ne dois point passer sous silence la proscription des habitants des vallées du Piémont, en 1655. C'est une chose assez remarquable dans l'histoire que ces hommes, presque inconnus au reste du monde, aient persévéré constamment, de temps immémorial, dans des usages qui avaient changé partout ailleurs. Il en est de ces usages comme de la langue, une infinité de termes antiques se conservent dans des cantons éloignés, tandis que les capitales et les grandes villes varient dans leur langage de siècle en siècle. Voilà pourquoi l'ancien roman que l'on parlait du temps de Charlemagne subsiste encore dans le patois du pays de Vaud, qui a conservé le nom de pays roman. On trouve des vestiges de ce langage dans toutes les vallées des Alpes et des Pyrénées. Les peuples voisins de Turin, qui habitaient les cavernes vaudoises, gardèrent l'habillement, la langue, et presque tous les rites du temps de Charlemagne. On sait assez que, dans le 8e et dans le 9e siècle, la partie septentrionale de l'Occident ne connaissait point le culte des images, et une bonne raison, c'est qu'il n'y avait ni peintre ni sculpteur, rien même n'était encore décidé sur certaines questions délicates que l'ignorance ne permettait pas d'approfondir. Quand ces points de controverse furent arrêtés et réglés ailleurs, les habitants des vallées l'ignorèrent, et, étant ignorés eux-mêmes des autres hommes, ils restèrent dans leur ancienne croyance, mais enfin ils furent au rang des hérétiques, et poursuivis comme tels. Dès l'année 1487, le pape Innocent VIII envoya dans le Piémont un légat nommé Albertus de Capitonnet, archidiacre de Crémone, prêcher une croisade contre eux. La teneur de la bulle du pape est singulière. Il recommande aux inquisiteurs, à tous les ecclésiastiques, et à tous les moines, de prendre unanimement les armes contre les vaudois, de les écraser comme des aspics, et de les exterminer saintement. In aeretico armi insurgant, et osc, velu aspid venenosa, conculsant, et ad tam sanctam exterminationem adibeam omnes conetus. La même bulle octroie à chaque fidèle le droit de s'emparer de tous les meubles et immeubles des hérétiques sans forme de procès. Borne cacum camobilia et immobilia quibuscum clicit occupandi, etc. Et, par la même autorité, elle déclare que tous les magistrats qui ne prêteront pas main forte seront privés de leur dignité, secular odoribus, tituli, feudis, privilegii privandi. Les vaudois, ayant été vivement persécutés en vertu de cette bulle, se crurent des martyrs. Ainsi leur nombre augmenta prodigieusement. Enfin la bulle d'Innocent VIII fut mise en exécution à la lettre en 1655. Le marquis de Pianès entra le 15 d'avril dans ses vallées avec deux régiments, ayant des capucins à leur tête. On marcha de caverne en caverne, et tout ce qu'on rencontra fut massacré. On pendait les femmes nues à des arbres, on les arrosait du sang de leurs enfants, et on emplissait leur matrice de poudre à laquelle on mettait le feu. Il faut faire entrer sans doute dans ce triste catalogue les massacres des Cévennes et du Vivarais, qui durèrent pendant 10 ans au commencement de ce siècle. Ce fut en effet un mélange continuel de proscriptions et de guerres civiles. Les combats, les assassinats, et les mains des bourreaux, ont fait périr près de 100 000 de nos compatriotes, dont 10 000 ont expiré sur la roue, ou par la corde, ou dans les flammes, si on en croit tous les historiens contemporains des deux parties. Est-ce l'histoire des serpents et des tigres que je viens de faire? Non, c'est celle des hommes. Les tigres et les serpents ne traitent point ainsi leur espèce. C'est pourtant dans 50 siècles de Cicéron, de Pollion, d'Atticus, de Varius, de Tibulle, de Virgile, d'Horace, qu'Auguste fit ses proscriptions. Les philosophes de Thau et Montaigne, le chancelier de l'Hôpital, vivaient du temps de la Saint-Barthélemy, et les massacres des Cévennes sont du siècle le plus florissant de la monarchie française. Jamais les esprits ne furent plus cultivés, les talents en plus grand nombre, la politesse plus générale. Quel contraste, quel chaos, quelle horrible inconséquence, compose ce malheureux monde. On parle des pestes, des tremblements de terre, des embrasements, des déluges qui ont désolé le globe, heureux, dit-on, ceux qui n'ont pas vécu dans le temps de ces bouleversements. Disons plutôt. Heureux ceux qui n'ont pas vu les crimes que je retrace. Comment s'est-il trouvé des barbares pour les ordonner, et tant d'autres barbares pour les exécuter? Comment y a-t-il encore des inquisiteurs, et des familiers de l'Inquisition? Un homme modéré, humain, né avec un caractère doux, ne conçoit pas plus qu'il y ait eu parmi les hommes des bêtes féroces ainsi altérées de carnage qu'il ne conçoit des métamorphoses de tourterelles en vautours, mais il comprend encore moins que ces monstres aient trouvé à point nommé une multitude d'exécuteurs. Si des officiers et des soldats courent au combat sur un ordre de leur maître, cela est dans l'ordre de la nature, mais que, sans aucun examen, ils aillent assassiner de sang-froid un peuple sans défense, c'est ce qu'on n'oserait pas imaginer des furies même de l'enfer. Ce tableau soulève tellement le cœur de ceux qui se pénètrent de ce qu'ils lisent que, pour peu qu'on soit enclin à la tristesse, on est fâché d'être né, on est indigné d'être homme. La seule chose qui puisse consoler, c'est que de telles abominations n'ont été commises que de loin à loin, n'en voilà qu'environ 20 exemples principaux dans l'espace de près de 4000 années. Je sais que les guerres continuelles qui ont désolé la Terre sont des fléaux encore plus destructeurs par leur nombre et par leur durée, mais enfin, comme je l'ai déjà dit, le péril étant égal des deux côtés dans la guerre, ce tableau révolte bien moins que celui des proscriptions, qui ont été toutes faites avec lâcheté, puisqu'elles ont été faites sans danger, et que les Sylla et les Augustes n'ont été au fond que des assassins qui ont attendu des passants au coin d'un bois, et qui ont profité des dépouilles. La guerre paraît l'état naturel de l'homme. Toutes les sociétés connues ont été en guerre, hormis les Brêmes, et les primitifs, que nous appelons Quakers, et quelques autres petits peuples. Mais il faut avouer que très peu de sociétés se sont rendues coupables de ces assassinats publics appelés proscriptions. Il n'y en a aucun exemple dans la haute antiquité, excepté chez les Juifs. Le seul roi de l'Orient qui se soit livré à ce crime est Mithridate, et depuis Auguste il n'y a eu de proscriptions dans notre hémisphère que chez les chrétiens, qui occupent une très petite partie du globe. Si cet âge avait saisi souvent le genre humain, il n'y aurait plus d'hommes sur la terre, elle ne serait habitée que par les animaux, qui sont sans contredit beaucoup moins méchants que nous. C'est à la philosophie, qui fait aujourd'hui tant de progrès, d'adoucir les mœurs des hommes, c'est à notre siècle de réparer les crimes des siècles passés. Il est certain que, quand l'esprit de tolérance sera établi, on ne pourra plus dire. Et apparentum pejor avituli. Non cior, mox daturo. Progeniem viciosiorem. Horizontal libre. Ii, aude. Vie, 46. On dira plutôt, mais en meilleur vers que ceci. Nos aïeux ont été des monstres exécrables. Nos pères ont été méchants. On voit aujourd'hui leurs enfants, étant plus éclairés, devenir plus traitables. Mais, pour oser dire que nous sommes meilleurs que nos ancêtres, il faudrait que, nous trouvant dans les mêmes circonstances que, nous nous abstincions avec horreur des cruautés dont ils ont été coupables, et il n'est pas démontré que nous fussions plus humains en pareil cas. La philosophie ne pénètre pas toujours chez les grands qui ordonnent, et encore moins chez les ordres des petits, qui exécutent. Elle n'est le partage que des hommes placés dans la médiocrité, également éloignés de l'ambition qui opprime, et de la basse férocité qui est à ses gages. Il est vrai qu'il n'est plus de nos jours de persécution générale, mais on voit quelquefois de cruelles atrocités. La société, la politesse, la raison, inspirent des mœurs douces, cependant quelques hommes ont cru que la barbarie était un de leurs devoirs. On les a vus abuser de leur misérable emploi, si souvent humiliés, jusqu'à se jouer de la vie de leurs semblables en colorant leur inhumanité du nom de justice, ils ont été sanguinaires sans nécessité, ce qui n'est pas même le caractère des animaux carnassiers. Toute dureté qui n'est pas nécessaire est un outrage au genre humain. Les cannibales se vengent, mais ils ne font pas expirer dans d'horribles supplices un compatriote qui n'a été qu'imprudent. Puissent ces réflexions satisfaire les âmes sensibles, et adoucir les autres. Facebook.